Nous commençons donc par deux questions, une à gauche, une à droite. Passez le micro. Oui, il y a un volontaire. Passez le micro à gauche, s'il vous plaît, là. Oui, un peu plus rapidement, s'il vous plaît, Saint-Florian, oui. Merci.
Merci. Charles Kipingani, pour le compte du journal Les Gouvernances Plus, magazine du Congo central. La MONUSCO a suivi la situation qui s'est déroulée à Kimpese dans la province du Congo central et elle garde un mauvais souvenir, je crois, que de l'attaque d'un véhicule de la MONUSCO en 2007 quand les éléments de BDK se sont affrontés. Et je ne sais pas jusque-là la position de la MONUSCO face à ce que l'on qualifie de massacre des populations civiles qui ne sont pas armées par une police lourdement armée, si je peux dire en ce terme. J'aimerais savoir la position de la MONUSCO face à cette situation.
Oui, merci pour votre question. D'abord, il faudra relever que la position de la MONUSCO a toujours été celle de condamner fermement tout acte de violence, qu'elle soit perpétrée par des groupes armés ou qu'elle soit perpétrée par tout autre acteur. Toujours est-il que dans cette partie du pays où nous avons vu une résurgence des activités de la secte Bundudja Congo, la MONUSCO n'a pas une présence effective là-dessus. Nous avons appris cette nouvelle et dès demain, une mission est prévue, une mission d'évaluation sera projetée pour aller faire une évaluation correcte de la situation dans cette partie du territoire. Mais évidemment que les informations qui nous parviennent sont assez alarmantes et sont très préoccupantes pour la MONUSCO puisqu'il s'agit de morts d'hommes et toute mort de Congolais nous préoccupe au plus haut point. Donc en attendant que nous ayons des informations beaucoup plus qui soient vérifiées, nous vous demandons tout simplement de retenir que nous irons sur le terrain dès demain pour faire une évaluation exacte de la situation. Évidemment, cette équipe sera pluridisciplinaire, composée de certaines sections de la MONUSCO, notamment la section des droits de l'homme. Donc, merci. Nous prenons une deuxième question ici. Oui, passez le micro.
Moi, c'est M. Okito Papi, du journal Écho d'Opinion. Je m'adresse à M. Félix Pace. Aujourd'hui, vous avez concentré les droits ou la grande partie de la force de la MONUSCO à l'Est. Mais la situation est partout, presque partout en République démocratique du Congo, au Kasaï central, au Bas-Congo et un peu partout. Qu'est-ce que la MONUSCO envisage aujourd'hui faire? Parce que la rébellion n'est plus seulement à l'est de la République démocratique du Congo. Merci.
Oui, merci. Donc il faudra tout simplement retenir que nous avions effectivement basculé le volume de nos forces vers l'est de la République démocratique du Congo, où vous savez très bien qu'il y a une prolifération de groupes armés et où l'insécurité provoquée par ces groupes armés avait créé une instabilité chronique qui nécessitait la mise en œuvre de mesures énergiques à côté de nos partenaires, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons constaté que même l'Ouest, qui était à la limite un peu calme, qui avait fait que nous avons préféré mettre l'accent vers l'Est pour nous rapprocher davantage des populations que nous sommes censés protéger. Nous avons vu que l'Ouest aussi connaît certains problèmes liés justement à une forme d'insécurité qui est née depuis un certain temps. Qu'est-ce que la MONUSCO fait par rapport au Kasaï central? Vous savez très bien que nous avions déjà à l'époque déployé des troupes du contingent pakistanais dans cette partie du territoire, qui a été d'ailleurs remplacée par le contingent uruguayen depuis quelques jours, et nous sommes là-bas non seulement pour avoir un effet dissuasif sur le terrain, mais aussi protéger les installations et le personnel de la MONUSCO, mais aussi faciliter toutes les activités qui sont menées par les autorités provinciales ou les autorités locales pour essayer de ramener le calme dans cette partie du territoire de la RDC. Donc nous restons toujours à Kinshasa puisque Goma n'est pas en ligne pour prendre une question à droite et nous irons ensuite vers la gauche.
Merci bien Monsieur Félix. Théodore Ngandou pour les comptes de Télé 7. Monsieur Félix, vous savez, après la mort de Tien Tshisekedi, les doutes planent dans les têtes de certains Congolais sur l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que la MONUSCO continue-t-elle à croire à la mise en œuvre de cet accord avec le décès d'Étienne Tshisekedi?
Oui, merci. C'est vrai que c'est avec tristesse et consternation que nous avons appris le décès de ce grand leader de l'opposition politique qui a œuvré toute sa vie pour promouvoir la démocratie dans ce pays. Et vous savez aussi que les parties prenantes à ces dialogues, ou en tout cas les discussions sur l'arrangement, sur les arrangements particuliers qui étaient en cours, ont été suspendues, donc comme un accord par aussi bien les membres de la magistrature présidentielle que ceux de l'opposition représentée par le Rassemblement, justement pour saluer la mémoire de M. Etienne Tshisekedi, dont la contribution est inestimable dans ce processus d'arrangement particulier, ou en tout cas dans cette dynamique de discussion qui a été initiée pour parvenir très rapidement à un accord. Donc je pense que l'espoir est encore permis, il ne faut pas justement désespérer, et je pense d'ailleurs que pour la mémoire du disparu, les acteurs devraient redoubler d'efforts, parce que aussi les populations congolaises sont accrochées justement à ces décisions qui devront être prises rapidement pour que nous puissions entrer dans cette période de transition qui nous mènera très prochainement à de futures élections paisibles, crédibles et transparentes. Donc nous prenons une autre question ici à gauche. Oui.
Merci, monsieur le porte-parole, Kéré Maï de l'Agence congolaise de presse. Je voudrais parler des tensions intercommunautaires dont a parlé madame Marshall. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un danger de propagation de ce phénomène? Parce que les populations pygmées, batois à l'est et même dans la province du Maïndombe, au Tanganyika, tout ça, ce sont des peuples, des populations autochtones de ce pays et qui d'habitude vivent dans le fin fond des forêts vierges. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène, ils sortent avec des flèches pour attaquer les populations bantoues. Or, ces pygmées sont dans toutes les provinces. Donc il y a un phénomène de propagation de ce phénomène, de cette histoire de conflit entre les bantous et les pygmées. Quelle est la méthodologie que les Nations Unies ont adoptée pour attaquer ce phénomène qui est dangereux pour notre pays?
Merci pour cette question qui est très pertinente par ailleurs. Je voudrais tout simplement exprimer toute la préoccupation de la MONUSCO, je dirais même de manière très générale des Nations Unies, puisque ces phénomènes ont des répercussions sur le travail des agences aussi. Je pense que ma collègue Florence Marshall l'a si bien mentionné tout à l'heure dans son propos introductif. Évidemment que la MONUSCO, face à cette situation-là, apporte tout son soutien d'abord aux autorités congolaise, tout en fustigeant la violence qui, comme vous l'avez dit, est en train de se répandre dans la province du Tanganyika. Mais vous savez, les conflits intercommunautaires ne sont pas simplement circonscrits dans la région du Tanganyika. Nous le voyons aussi à l'est, entre les Nandé, les Hutus, et même la création de milices qui s'en prennent à une communauté, à une autre. Et cet état de fait est inacceptable et doit évidemment s'arrêter. Il est beaucoup plus difficile, évidemment, de prendre en compte une telle violence, de prendre en compte ce nouveau phénomène, parce qu'il s'agit de conflits intercommunautaires qui trouvent le soubassement dans, parfois même dans l'histoire. Évidemment, tout le monde s'active en premier, les autorités provinciales, les autorités nationales, pour mettre un terme à ce regain de violence que nous avons vu. Vous n'avez pas tort de dire que il y a ce phénomène qui est en train de se répandre, parce qu'initialement il était circonscrit vers Nyonzou. Ensuite, il a migré vers dans le Manono. Aujourd'hui, nous le retrouvons dans le Kabalo, vers Moba aussi. Et cette situation est très préoccupante. Mais les mécanismes qui ont déjà été initiés et qui sont en train d'être mis en œuvre, je pense, pourront apporter un semblant de solution. Nous avions aussi évoqué ici l'intérêt majeur que constitue ce phénomène pour la MONUSCO, puisque le représentant spécial adjoint, M. David Grécy, s'était personnellement déplacé dans la région, dans cette partie du territoire national, pour non seulement interagir avec les autorités locales, mais aussi discuter, interagir avec les populations locales de cette contrée. Des mécanismes avaient été initiés, ils sont en train d'être poursuivis, notamment la mise en œuvre des barazas, qui sont des comités de sages qui permettent à toutes les entités d'être représentées dans ce comité et de pouvoir discuter des problèmes qui les opposent en vue de remettre en place cette coexistence pacifique qui a existé entre ces communautés depuis très belle lurette. Maintenant, vous avez raison de dire que c'est inquiétant, c'est préoccupant, parce que les causes profondes ne sont pas, par exemple, identiques à celles qu'on retrouverait dans la création des groupes armés. Ces causes profondes nécessitent un certain nombre de mécanismes, nécessitent un certain nombre d'actions qui sortent du cadre classique que nous avons connu dans la neutralisation des groupes armés ou en tout cas dans l'éradication de la violence. Donc, merci. Donc, nous prenons une dame. Oui, ici, passez le micro à gauche, donnez le micro à une dame.
Merci, c'est Marthe Bossoin-Dolé pour l'agence France Presse. Monsieur le porte-parole, je voudrais revenir sur la situation au Kasaï que vous avez évoquée. Et depuis quelques jours, on a parlé des affrontements à Luisa. Et certaines sources font état d'une présence des soldats angolais. Qu'est-ce que la MONUSCO a pu observer sur place? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et est-ce que vous avez un bilan? Merci.
Oui, merci. Évidemment, cette situation à Luisa est très préoccupante. Nous avons eu écho d'une quarantaine d'individus qui auraient été tués. Mais je veux tout simplement souligner que la MONUSCO n'a pas une présence effective dans cette période, dans cette partie du territoire. Toujours est-il que au moment où nous parlons, nous n'avons aucune indication précise. Et une mission a été prévue dans cette partie du territoire pour justement aller recueillir les informations, interagir avec les populations locales et les autorités de cette région pour en savoir un peu plus. Et une fois que nous aurons toutes ces informations en notre possession, il est bien évident que nous les partagerons avec vous. Oui, merci. Donnez le micro, oui. Oui, donnez le micro au fond là-bas, je vois une main qui se lève. Isaac, oui.
Merci, c'est Isaac Mwenza pour le compte DRC Today Congo Alelo. Monsieur le porte-parole, depuis l'annonce du décès du leader de l'IDPS, M. Tshisekedi Tshisekedi, j'ai été alimenté à plusieurs reprises. Mais j'ai une inquiétude par rapport aux dispositions sécuritaires qui puissent être prises pour qu'il n'y ait pas de morts. Les combattants et les policiers de la PNC, c'est comme la souris et le chat. Les combattants disent qu'ils ne veulent pas voir un seul policier en tenue de la police pendant les funérailles. Ils suggèrent que les casques bleus prennent soin de la sécurité pendant les funérailles. Est-ce que vous serez en mesure d'envoyer les casques bleus pour qu'il n'y ait pas des affrontements? Merci.
Merci pour votre question. D'abord, je voudrais souligner que la force de la MONUSCO n'est pas une force de substitution, mais c'est une force qui appuie le gouvernement congolais dans ses efforts de sécurisation de manière très générale de la République démocratique du Congo. Je pense que cette question, vous devez plutôt la référer aux autorités congolaises, mais vous savez que nous sommes toujours là, prêts à pouvoir appuyer les autorités dans leurs efforts de pacification de manière très générale. Donc c'est ce que je peux vous dire sur cette question précise. Oui, oui, je pense que Goma est de retour. Goma, vous m'entendez? Goma?
Saint-Sucel.
Merci. Donc, je vais tout de suite à Goma. Vous gardez le micro pour trois questions.
Oui. Je m'appelle Saïd Abbas Simadjid. Je suis de Amina News et Moutan FM. Je pose la question à Florence Marshall. Vous avez un peu de données la manière dont les femmes et les enfants sont accueillis dans les familles d'accueil, mais les informations en notre possession est que à un certain moment, cette couche vulnérable est exposée et restée à la merci de leur sort. Je ne sais pas si l'équipe de pays, vous avez des informations en ce qui concerne les méthodes et stratégies susceptibles pour les cadres des traitements sexuels spécifiques des femmes particulièrement.
Oui, ben comme je l'ai indiqué dans mon propos d'introduction, évidemment nous nous intéressons à ça et la matérialisation de tout ça, mais on n'a pas attendu la matérialisation de cela, mais un exemple donc c'est cet accord de coopération qui a été signé la semaine dernière entre le OCHA et ONU Femmes pour vraiment que la dimension du genre soit intégrée dans tous nos plans d'action et de réponse humanitaire. on le sait, les femmes et les enfants sont les catégories les plus vulnérables et ce sont celles sur lesquelles nous essayons, dans notre réponse, d'apporter le plus d'attention et sur lesquelles nous essayons aussi de susciter l'attention aussi des bailleurs afin qu'ils financent nos projets pour assister les personnes en besoin ici en République démocratique du Congo. Donc oui, nous sommes conscients de tout ça et ce sont des populations qui sont prioritaires pour nous.
Merci. Donc nous restons à Goma pour avoir une deuxième question. Comment une deuxième question.
J'ai entendu pour les comptes de la RTL. La communauté internationale a demandé au gouvernement congolais de respecter l'accord de Saint-Sylvestre pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. J'aimerais savoir que fera la MONUSCO au cas où les gouvernements congolais ne respectaient pas cet accord. Merci.
J'avoue que je ne comprends pas bien votre question, madame. Est-ce que vous pouvez la reformuler?
Oui, je disais ceci. La communauté internationale a demandé au gouvernement congolais de respecter l'accord de Saint-Sylvestre pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Maintenant, que fera la MONUSCO au cas où les gouvernements congolais ne respectaient pas cet accord juste pour que les pays ne tombent pas une fois dans le chaos?
Oui, madame, je ne sais pas à quoi vous faites référence lorsque vous parlez de la communauté internationale qui aurait demandé au gouvernement. Mais je pense que il faut inscrire cette requête, si toutefois elle existait, parce que je ne suis pas en possession de cette information relayée par la communauté internationale. Mais il faut tout simplement retenir que le respect de cet accord n'est pas n'incombe pas simplement au gouvernement congolais, il incombe à tous les acteurs politiques qui se sont inscrits dans cette dynamique-là et qui sont parvenus, après beaucoup de réunions, beaucoup de discussions sous la médiation de la CENCO, qu'il faut féliciter au passage, pour arriver à un consensus, à un compromis, à un accord qui a été signé le 31 décembre au centre interdiocésain. Je pense que c'est un pas significatif qu'il faudra saluer. Il faudra aussi reconnaître le courage de tous les acteurs qui ont pris part à cela. Maintenant, il suffit d'aller de l'avant pour finaliser les arrangements particuliers qui étaient en discussion. Et comme je l'ai dit tantôt, il est évident que les différents acteurs se sont entendus, donc comme un accord, à suspendre toute activité jusqu'à ce que les funérailles soient organisées et évidemment les discussions reprendront et nous espérons qu'elles seront finalisées très rapidement parce que le peuple congolais aussi attend que cet accord soit définitivement finalisé et qu'on puisse aller à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est aller vers un gouvernement de transition, c'est aller aussi vers des élections futures. Donc nous restons à Goma pour prendre une troisième question s'il vous plaît.
Oui, je me nomme Roberto Kitukaunge, Mutua Milimani. J'ai une question au colonel. Colonel, ça fait au moins 3 mois que la brigade d'intervention se trouve dans les parties nord de Beni. Est-ce que nous pouvons savoir, si ce n'est pas un secret, combien de militaires, depuis que ces affrontements ont eu lieu à Beni, et dans les tronçons à partir de Mabenga en allant vers Butembo, est-ce qu'on peut savoir le nombre de militaires tombés aux côtés de la MONUSCO? Merci.
Oui, Goma.
Donc vous faites allusion à la brigade d'intervention qui est au nord et ensuite vous demandez est-ce que du côté de la MONUSCO combien de vies humaines la force a perdu. Je n'ai pas une statistique à vous donner dans ce sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque un soldat, que ce soit en mission de paix ou un soldat de nos partenaires tombe, c'est une situation déplorable. Alors donc, la statistique que vous demandez par rapport à ces personnels qui perdent la vie.
Oui, allez-y.
Je laisse la parole au force commandant.
Thank you. I'm unfortunately limited when it comes to French. But if I understand it correctly, the question is, in terms of the MONUSCO force, how many are injured and how many are dead or died in the process? No, it's fine. Died in the process of area of Butembo going to Beni. Is that the question? Well, I'll give you the injured, about 10 from the FIB, one dead from the FIB in the area of Beni. Thank you.
Oui, merci pour cette intervention du général commandant de la force, le général
Mouébi,
le général de corps d'armée, pour toutes ces informations concernant le bilan des opérations. Maintenant, je ne sais pas si mon collègue de Goma voudrait des statistiques globales depuis que la FIB, la brigade d'intervention, a été déployée dans cette zone-là. Si tel est le cas, après cette conférence de presse, rapprochez-vous du porte-parole militaire qui pourra les mettre à votre disposition. Donc voilà, merci. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux autres questions. Oui, une à gauche, une à droite là. Passez le micro, s'il vous plaît.
Guy Oloume, RTNC2 Développement. Madame Marshall, un cas de virus Zika a été suspecté récemment en Angola, proche de la RDC. Étant donné que les frontières sont poreuses entre les deux pays, est-ce que les agences onusiennes habilitées prennent-ils déjà les choses au sérieux? Qu'est-ce qu'ils font déjà pour éviter demain les contaminations, les cas de la fièvre jaune? Merci beaucoup.
Merci. On parle de Zika ou de la fièvre jaune? D'accord. Ok. Je n'ai pas d'informations précises concernant Zika, mais je sais que l'OMS et l'organisation donc, qui travaille ici, l'Organisation mondiale de la santé, sur toutes ces questions-là. Et à chaque fois qu'il y a eu effectivement, que ce soit la fièvre jaune, que ce soit le choléra, d'autres cas comme ça, dans les régions frontalières, il y a toujours eu des réunions transfrontalières. Donc, j'espère que c'est la même chose pour Zika, mais je vais me renseigner et vous aurez la réponse la semaine prochaine.
Oui, merci. Une deuxième question à Kinshasa. Oui, vous avez le micro, vous pouvez le garder.
Merci pour la parole. Symphorien Katumba pour le compte de l'explorateur. J'ai une préoccupation à l'intention de Mme Florence. Parlant du dédoublement des prisonniers dans les prisons en République démocratique du Congo, chaque année, le même sujet rebondit avec force. Comment faut-il mettre fin à ce système qui devient sous forme d'un fonds de commerce pour ne pas respecter le nombre judiciaire en RDC? Je vous remercie.
Alors, vous me renvoyez à une déclaration que j'ai faite la semaine dernière, enfin une déclaration, un partage d'informations avec vous sur le fait que la lutte contre la surpopulation carcérale est l'un des volets du programme pluriannuel d'appui à la justice qui est mis en œuvre par le gouvernement avec le soutien de partenaires et notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Et c'est dans ce cadre qu'on peut assister actuellement à l'examen des cas des personnes qui sont détenues et aussi voir quelle est la catégorie de personnes qui peuvent être libérées. Et donc cela concerne les prisons centrales de Kinshasa, du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri. Voilà. Et sinon, pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher des collègues du PNUD qui pourront vous donner plus d'informations sur cette action. Donc, pour lutter contre la surpopulation carcérale.
Merci donc, direction Goma, pour prendre deux autres questions à partir de Goma.
Saïdi Abbas encore. La question à M. Félix Bass. Moi, en tant que partenaire incontournable à la CNI, il ne reste que moins de 26 ou 25 jours, si je ne me trompe pas. Mais la CNI a fait un bilan comme quoi c'était positif. Mais pour autant, nous avons des questions internes à ce qui concerne les processus d'enrôlement. Il y a perdition des électeurs par rapport d'abord à ce qui concerne la ville de Goma, la pesanteur de la loi migratoire qui fait qu'il y a des gens qui quittent les encablures de Goma pour venir s'enrôler à Goma, mais le parti politique et les potentiels candidats réclament à ce que la CENI revoie l'enrôlement de ces gens. Le cas qui peut nous amener à faire les doublons. Et la CENI a déclaré aussi qu'il y aura des poursuites pour les gens qui vont s'enrôler des fois. Comment est-ce que vous êtes en train d'accompagner techniquement cette question à la CENI?
Oui, merci pour votre question. Je pense que Florence, vous avez des éléments de réponse à apporter à notre collègue de Goma.
Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, les Nations Unies, notamment la MONUSCO, apportent un soutien logistique et une assistance technique aux opérations actuelles de révision du fichier électoral. Ce sont, mais c'est un soutien qui est encadré par la résolution du Conseil de sécurité, mais aussi par un accord entre la CENI et les Nations Unies. Notre rôle à l'heure actuelle, c'est de pouvoir faciliter le déploiement du matériel entre Kinshasa et les hubs sur toute l'étendue du territoire et entre les hubs et les antennes qui sont particulièrement difficiles d'accès. Donc notre tiens, c'est aider au déploiement du matériel. On l'a vu, on va bientôt arriver à 2000 tonnes de matériel qui auront été déployées sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne ce qui se passe dans les centres d'enregistrement, nous ne sommes pas présents. Cela ne fait pas partie de l'assistance qui nous a été demandée par la CENI.
Oui, merci. Retour ici à Kinshasa. Nous prendrons encore deux questions, une à droite là, et ensuite nous irons vers la gauche.
Merci, monsieur le porte-parole. Moi, c'est Flavien Msens pour la compte de Planète Télévision. Je reviens sur la double visite des membres du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo, plus précisément à Goma. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'objectif de ces membres ici, à Goma?
Oui, merci. Donc, d'abord, il faut corriger. Il ne s'agit pas des membres du Conseil de sécurité. Il s'agit des membres du 5e comité des Nations Unies, oui, qui sont là, qui ont démarré par Bukavu et qui vont poursuivre leur travail ici en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une équipe qui vient évaluer, qui travaille sur le budget des Nations Unies et qui vient évaluer la façon dont la MONUSCO utilise l'argent qui est mis à sa disposition par les Nations Unies en vue d'apporter des correctifs ou en tout cas voir s'il est nécessaire d'accroître ces moyens-là ou en tout cas vérifier. Et c'est une question, en tout cas de manière très générale, une question de comptabilité, une question de vérification pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il faudra apporter des mesures correctives pour que l'argent qui est mis à la disposition de la MONUSCO soit utilisé de manière orthodoxe en d'autres termes. Donc oui, je prends une deuxième question là à gauche.
Merci, Omer Kandemi, pour les comptes du journal de la prospérité. Monsieur Félix, il y a les divergences en ce qui concerne les obsèques de Tshisekedi ici à Kinshasa. Il y a d'abord les partisans, ces partisans qui veulent vraiment qu'ils soient pleurés à la menace des UDPS. Mais est-ce qu'aujourd'hui la MONUSCO peut-elle livrer un message soit à l'endroit des acteurs politiques du rassemblement ou de l'UDPS et encore à l'endroit de ceux de la majorité présidentielle pour essayer un peu d'apaiser leurs partisans afin que Tshisekedi soit pleuré avec honneur étant donné le parcours qu'il a parcouru? Merci.
Oui, merci. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas au courant des arrangements définitifs concernant l'organisation des funérailles de M. Tshisekedi. Je sais que des dates indicatives ont été avancées, notamment concernant l'arrivée de la dépouille mortelle, mais aussi concernant l'organisation de ces funérailles. Mais de manière définitive, je ne pense pas qu'un programme ait été définitivement établi et diffusé à l'attention des Congolais, parce qu'il s'agit d'une figure congolaise, un enfant du Congo qui a œuvré pour la promotion de la démocratie dans ce pays. Ce que je peux encore rajouter, c'est que une délégation des membres du gouvernement, de la majorité présidentielle, mais aussi de l'opposition, de l'UDPS et du Rassemblement, s'est rendue en Belgique pour voir comment s'il faudra mettre en pratique les modalités qui seront arrêtées concernant cette les funérailles de ce grand monsieur qui devra être enterré en République démocratique du Congo. Donc voilà ce que je peux vous dire, à moins que vous vous rapprochiez des organisateurs de l'UDPS pour savoir réellement. Mais toujours est-il que la MONUSCO appelle tous les Congolais au calme. Évidemment que c'est un moment décisif, c'est un moment historique, parce qu'il s'agira de rapatrier les restes de monsieur Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Je pense que pour sa mémoire aussi, les gens devraient taire toutes leurs querelles, toutes leurs divergences et assister collectivement dans un élan collectif pour prier pour le repos de l'âme de M. Tshisekedi. C'est ce que nous pouvons vous dire là-dessus. Oui, donc je repars à Goma quand même pour prendre une question à Goma, une dernière question avant de revenir à Kinshasa et conclure cette conférence de presse. Goma, vous avez une question.
On m'appelle Sylvie Mazambi, je suis là pour le compte de l'Union Congolaise des Femmes de Médias, section du Nord Kivu. Ma question s'adresse à Florence Marchat, c'est son nom je crois, pour l'accompagnement logistique de la MONUSCO quant au processus électoral. En tant qu'observatrice, j'étais mandatée par une organisation de femmes, je suis en train d'observer les élections, et je me suis rendue compte qu'il y a carence des kits électoraux. Je ne sais pas, quand elle dit qu'il y a accompagnement logistique, ça veut dire que vous fournissez les matériels au processus électoral pour le processus d'enrôlement, est-ce qu'il y a un suivi? Et vous avez parlé du territoire, j'aimerais bien avoir une précision si c'est dans tous les territoires nationaux, ça veut dire toute la RDC ou seulement à Kinshasa. Merci.
Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler deux règles qui doivent régir cette conférence de presse. Elle est ouverte aux journalistes, premièrement. Et deuxièmement, la deuxième règle, c'est que par respect pour les auditeurs de Radio Capi, par respect pour les participants, merci d'éteindre vos téléphones portables pendant la conférence de presse. Ça, c'était le rappel des règles. Concernant votre question, nous transportons du matériel électoral qui est mis à notre disposition par la CENI. Ce n'est pas nous qui fournissons le matériel électoral. Donc nous avons un rôle de transporteur au service de notre partenaire. Donc nous, on nous demande de, évidemment, nous savons ce que nous transportons. Il s'agit de kits bureautiques, de kits d'enregistrement, de générateurs, de cartes d'électeurs. Mais voilà, une fois encore, notre mission, c'est de transporter d'un point A à un point B et ensuite nous remettons le matériel à notre partenaire qui est la CENI.
Oui, merci. Donc, retour tout de suite à Kinshasa pour prendre une dernière question avant de mettre un terme à cette conférence de presse. Oui, passez-lui le micro là-bas à gauche.
Voilà. The last but not the least, comme on dit en anglais. Le dernier mais pas le moindre. Roger Marley Lukunga pour le Paris. Lorsque rien ne s'est dit autour d'un événement, l'on parle souvent des silences radio. Depuis plus d'une année, le chef rebelle Joseph Kony de la LRA est enveloppé d'un silence radio. Cela veut-il dire qu'il s'est rendu des poubelles lurettes, ou bien c'est la MONUSCO qui n'a plus de signaux en provenance de lui? Et pourquoi donc ces silences-là?
Oui, merci. C'est vrai que M. Joseph Kony, depuis un certain temps, a observé un profil bas, parce qu'il n'est pas en République démocratique du Congo, mais je pense que le porte-parole militaire, toutes les semaines, vous fait le point de la situation sécuritaire qui prévaut dans le haut et le bas où il est, notamment concernant les activités de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, que Joseph Kony dirige depuis plus de 20 ans. Nous avons vu aussi que la LRA a été dormante pendant un certain temps. Aujourd'hui, la LRA se manifeste tout simplement par des actes de pillage, parce qu'ils sont dans une dynamique aussi de survie et ils sont entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Mais je pense que ceci ne met pas un terme aux efforts qui sont déployés par la communauté internationale de manière très générale pour neutraliser la LRA. N'oubliez pas qu'à Yambio, des forces ont été mises en place et qui étaient sous le commandement d'un général ougandais, appuyé par des forces spéciales spéciale américaine qui travaille sans relâche tous les jours pour mettre un terme aux activités négatives de la LRA, car depuis un certain temps aussi, vous conviendrez avec moi que la LRA n'est pas aussi visible ou en tout cas ne se manifeste pas comme nous l'avions connu à l'époque où pendant les périodes festives de Noël, nous assistions à des massacres de centaines de civils dans cette région de la République démocratique du Congo. C'est tant mieux, comme je le dis, ça veut dire tout simplement que la pression militaire qui est exercée contre ce groupe est payante et que les efforts vont se poursuivre parce que Joseph Kony, comme tout autre groupe armé, doit être neutralisé et c'est à cela que les FARDC, qui font partie d'ailleurs de cette force coalisée mise en place pour traquer la LRA, à côté d'autres pays, évidemment, les FARDC s'engagent tous les jours à sécuriser les populations et à préserver l'intégrité du territoire. Donc merci, c'est sous ce mot que je mets un terme à cette conférence de presse. Nous vous retrouverons le mercredi prochain. Merci.